Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Eric Manilakiza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du mardi 10 octobre 2017. D'abord le sommaire. Rebondissement dans la présidentielle du 26 octobre au Kenya. Raila Odinga se retire, laissant le champ libre à Uhuru Kenyatta. Au Liberia, le successeur de la présidente Ellen Johnson Sirleaf et les membres de la Chambre de représentants sont élus aujourd'hui. Le président séparatiste catalan a renoncé à déclarer immédiatement l'indépendance. Il a appelé au dialogue qui risque de se heurter à la fermeté de Madrid. Les incendies continuent de ravager la Californie et ont déjà fait 11 morts dans les régions viticoles très touristiques au nord de San Francisco. Retrouvez Nicolas Pinot pour votre page des sports et Jacques Aristide pour l'actualité économique juste après le journal. Les Libériens ont voté aujourd'hui pour désigner un nouveau président, successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue présidente en Afrique. Les électeurs doivent départager 20 candidats en lice, dont l'ancienne star du football Jojo Weah. Pour savoir l'ambiance du déroulement du vote, Idriss Fall a joint à Moronvia un journaliste de la radio onusienne, Jacob Joël.
La population est vraiment excitée. Tout le monde comprend que le pays, de plusieurs années de guerre, a eu d'abord un président démocratiquement élu. Ce passage de ce président à un autre, c'est un exercice que beaucoup de Libériens respectent depuis 6 heures ce matin. Il y a d'autres qui étaient d'ailleurs même dans des lieux de vote avant 7 heures-là. Moi, j'y étais arrivé à 6 heures pour observer quelques centres de vote. Ça va, ça se déroule paisiblement, ça se comprend. Bien voit que ces concentrations entre plusieurs partis politiques, nous en avons 20 pour faire ce choix. Je pense que l'hésitation sur cette élection a été sûre et les gens, depuis ce matin, continuent. Les lignes, les queues sont encore très longues. Surtout à Painesville, là où je suis arrivé peu après 15 heures cet après-midi.
Joël Jacob, journaliste de la radio onusienne à Moronvia. Nous reviendrons sur le bilan de la présidente Sirleaf dans la seconde partie de cette édition. L'opposition togolaise envisage une nouvelle marche le 18 octobre pour exiger une réforme constitutionnelle. Le gouvernement compte organiser un référendum pour faire adopter une réforme constitutionnelle, notamment limitant à 2 mandats présidentiels. Mais l'opposition dénonce ce projet de loi. Il n'est pas rétroactif et remet les compteurs à zéro pour permettre de facto à M. Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de briguer un 4e mandat, voire un 5e. Coup de théâtre au Kenya, à quelques jours de la présidentielle du 26 octobre. L'opposant Raila Odinga s'est retiré de ce scrutin. Le point avec Claire Morengibourg.
Dans une conférence de presse à Nairobi, Raila Odinga, leader de la coalition NASA, a affirmé qu'il renonçait à se présenter à la présidentielle, et ce, dans l'intérêt du peuple kényan.
This statement is the National Superalliance Coalition statement on the withdrawal of the candidature.
Cette déclaration marque le retrait de la candidature de Raila Amolo Odinga.
Une décision surprenante car la Cour suprême a invalidé le 1er septembre la réélection de M. Kenyatta à la demande de l'opposition qui a toujours conditionné sa participation au nouveau scrutin du 26 octobre à une réforme en profondeur de la commission électorale. Craignant que cette élection soit pire que la précédente, M. Odinga estime que le scrutin doit être purement et simplement annulé.
Au Kenya, toujours 2 employés d'une université ont été tués et 2 policiers et leurs chauffeurs blessés. Des inconnus armés ont attaqué leur véhicule à proximité de Diana, dans le sud-est sur l'océan Indien. Les islamistes Shabab figurent parmi les suspects, mais la police n'écarte pas la piste du banditisme. Un groupe de cette ONG a demandé des sanctions envers des membres de la famille du président Joseph Kabila. Récemment, 7 sénateurs américains ont écrit au président Donald Trump demandant des mesures si la crise politique persiste à Kinshasa. Human Rights Watch a accusé l'armée rwandaise de recourir à la torture pour extorquer des aveux à des suspects détenus illégalement. Cette ONG affirme avoir documenté 104 cas de personnes détenues illégalement. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. Au Nigeria, les autorités sanitaires ont tenté de rassurer les 180 millions d'habitants des dizaines de cas suspects de variole du singe signalés dans cet état ont provoqué la panique dans la ville de Lagos. Au Madagascar, le président Héry Rajaonarimampianina a appelé sa population au calme face à l'épidémie de peste qui a déjà fait 45 morts et le ministère de la Santé a déjà documenté plus de 387 cas. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a promis de régler le problème des groupes d'autodéfense qui ont récemment tué cette personne soupçonnée d'avoir bu ou tenté de boire du sang humain lors de cérémonies de magie noire. En Égypte, un tribunal du Caire a condamné 8 personnes à la peine de mort pour l'attaque d'un commissariat au sud de la capitale à l'été 2013. Et le Conseil de sécurité de l'ONU exhorte fermement tous les Libyens à travailler ensemble dans un processus politique inclusif. Il a soutenu l'organisation d'élections législatives présentée par l'envoyé spécial de l'ONU, Gassam Salamé. Une nouvelle constitution doit être soumise à référendum et ouvrir la voie à des élections. Le président de l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré que les missions de maintien de la paix des Nations Unies seront totalement financées malgré une coupe budgétaire annoncée il y a quelques mois.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président séparatiste catalan a suspendu les effets de la déclaration d'indépendance sans fixer de délai précis. Il a souligné la nécessité impérieuse de réduire les tensions dans la région et a dénoncé le refus radical de Madrid de négocier un référendum. Dans une première réaction, le gouvernement espagnol a estimé qu'une déclaration implicite d'indépendance n'est pas admissible. Pape Moussa Ndiaye, résident à Barcelone, revient sur cette intervention du président séparatiste catalan devant le Parlement de la région.
Le président Carlos Puigdemont a fait une historique un peu de ce qui s'est passé de Catalogne avec l'Espagne. Et donc les tentatives qui ont essayé depuis plus d'une dizaine d'années pour ne pas aboutir à ce qu'on est en train de discuter maintenant, le problème de l'indépendance de la Catalogne, est maintenant vraiment exposé à tous les Espagnols, les Catalans et tous les peuples du monde qui nous écoutent, donc les origines du problème. Donc il a exposé clairement que le si a gagné sur le non. Et pour autant, donc, le peuple proclame ou bien réclame, disons, donc, la République catalane. Exactement, il demande une chance donc, au Parlement catalan de pouvoir ouvrir les négociations avec le gouvernement central de M. Rajoy et pour voir si on peut arriver quand même à trouver une solution à l'amiable, vu au moins pour améliorer le statut d'autonomie, d'autodétermination catalan qui, depuis une dizaine d'années, est toujours dans les discussions et n'a jamais abouti à trouver un consensus.
Pape Moussa, un Catalan d'origine sénégalaise. Des pirates informatiques ont volé des centaines de documents militaires sud-coréens classifiés. Ils sont relatifs à des plans d'action élaborés avec Washington dans l'éventualité d'une guerre. Il s'agit entre autres du plan opérationnel 50-15, le dernier plan d'action américano-sud-coréen conçu dans l'éventualité d'une guerre avec le Nord, qui comporte notamment des projets d'attaque pour supprimer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Les relations des incendies plutôt continuent de ravager le nord de la Californie dans les régions viticoles de Napa et Sonoma, faisant 11 morts, détruisant des milliers d'habitations et forçant plus de 20 000 personnes à fuir. Les précisions de John Lyndon.
Selon les pompiers de Californie, environ 32 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes depuis dimanche dans cette région touristique du nord-ouest des États-Unis. Au moins 10 personnes ont perdu la vie. En moins de 24 heures, plus de 18 feux ont détruit plus de 2 000 habitations et menacent des milliers d'autres selon Jerry Brown, gouverneur de la Californie, dans une lettre adressée au président Donald Trump. Il lui a demandé d'émettre une déclaration de catastrophe naturelle pour débloquer des aides fédérales vu la gravité et l'ampleur des incendies. Des ordres d'évacuation ont été diffusés et les incendies ont par ailleurs entraîné la fermeture d'autoroutes et de routes locales. L'ouest des États-Unis a déjà subi début septembre des feux de brousse et des incendies qui avaient entraîné des milliers d'évacuations. La région est particulièrement vulnérable à cette époque de l'année où les pluies sont rares et les vents violents.
L'Union européenne a adopté une série de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Ces sanctions interdisent aux entreprises européennes de vendre des liquides de gaz naturel en Corée du Nord et d'importer des textiles de ce pays et aussi des limitations imposées à la vente de produits pétroliers raffinés et de pétrole brut. Des pourparlers entre le mouvement Hamas et son rival palestinien du Fatah ont commencé aujourd'hui au Caire pour contester concrétiser une réconciliation. Les discussions à huis clos sont prévues pour durer plusieurs jours. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique avec Jacques Aristide.
La reprise économique se confirme en Afrique subsaharienne. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 2,6% en 2017 après un taux d'1,4% l'an dernier à cause du bas niveau des cours des matières premières. Le FMI estime que le produit intérieur brut des 45 pays de la région devrait continuer à progresser l'année prochaine à hauteur de 3,4%, mais l'institution ne manque pas de souligner la fragilité récurrente des deux moteurs économiques du continent, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Nigeria a été affecté par la baisse des prix du pétrole, alors que l'Afrique du Sud est confrontée à l'incertitude politique qui pèse sur la confiance des consommateurs et des investisseurs. Le groupe nucléaire français Areva procédera à des licenciements l'an prochain dans une de ses filiales au Niger. À la sommaire dans le nord nigérien, plusieurs centaines de salariés seront concernés. Areva évoque les prix très bas de l'uranium à $20 la livre et indique que la sommaire doit adapter son organisation industrielle et ajuster ses effectifs. De telles mesures incontournables, d'après le groupe, permettront à la sommaire d'éviter la faillite. Areva exploite l'uranium depuis près de 50 ans dans le nord du Niger. La Banque centrale d'Éthiopie a dévalué la monnaie du pays de 15% pour stimuler les exportations qui ont pris du retard. La banque a également augmenté son taux directeur de 5 à 7%.
Nous recevons Nicolas Pinot pour des sports. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec cette fin de la belle histoire syrienne dans la course à la qualification.
Et oui, on parle évidemment du Mondial 2018, l'Australie qui a mis fin au rêve du Mondial 2018 de la Syrie, pays ravagé, vous le savez, par la guerre. Une défaite pour les Syriens en prolongation lors du pré-barrage retour de la zone Asie. 2-1, c'est le vétéran australien Tim Cahill, 37 ans, qui a mis un point final à l'épopée syrienne avec un doublé à la 109e minute.
Et des rencontres ultimes en cours en Europe.
Oui, en juste ce soir, c'est la mi-temps, le Portugal qui mène 1-0 contre la Suisse à Lisbonne, la France qui mène 2-0 contre la Biélorussie, même score pour les Pays-Bas contre la Suède grâce à un doublé de Robben et la Belgique qui domine après 45 minutes de jeu. Chypre grâce à un but d'Eden Hazard. La Serbie et l'Islande ont assuré hier leur qualification pour ce mondial. C'est notamment une première dans l'histoire pour l'Islande qui a battu le Kosovo 2-0.
Nicolas, nous attendons un verdict en Amérique latine, n'est-ce pas?
Et oui, ce sera cette nuit. Le Brésil a son billet pour le mondial, mais par l'Argentine. Là-bas, Lionel Messi est très mal embarqué, même pas en position de barragiste. Et le traquenard se profile avec un dernier match cette nuit en Équateur, sur les hauteurs de Quito, à 2800 mètres d'altitude. En tout cas, dans la zone sud, pour le moment, l'Uruguay, le Chili et la Colombie sont bien partis. Le Pérou est pour l'heure barragiste.
Et on va terminer avec son bilan mitigé pour l'Afrique du football à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Inde.
Après sa défaite face à l'Iran, lors du premier match, la Guinée a fait match nul ce matin en Inde, 2-2 face au Costa Rica. Fandje Touma est soumis les buteurs pour le Sili National. Le Niger a lourdement chuté contre l'Espagne, défaite 4-0 pour le MENA. Le Mali qui jouera sa qualification jeudi contre la Nouvelle-Zélande, tout comme le Ghana face au pays organisateur, l'Inde.
Merci Nicolas pour toutes ces précisions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manila Kiza, pour aborder la seconde partie de cette édition. L'heure est tout bilan pour Ellen Johnson Sirleaf, alors que les Libériens choisissaient aujourd'hui un nouveau président. Élue en 2006, Madame Sirleaf est entrée dans l'histoire comme la première femme chef d'État en Afrique. Devenue prix Nobel de la paix en 2011, elle jouit d'une glorieuse réputation sur l'échiquier international. Au Libéria, toutefois, certains se disent déçus de ses 12 années au pouvoir. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Ibrahima Kane, directeur de plaidoyer de l'Open Society Foundations à Dakar.
On aurait pu penser qu'étant la première femme africaine à diriger un pays, elle aurait apporté une certaine touche. Mais pendant les 12 années de sa présidence, on a vu peut-être une présidente de la République qui était beaucoup plus à la recherche de moyens de gérer le quotidien que de trouver vraiment des solutions aux problèmes des gens. Et cela déçoit quelque peu parce que elle avait le pédigré pour le job. Elle est une ancienne de la Banque mondiale. Elle connaissait les problèmes économiques du continent avant même de prendre les rênes du pays. Elle a quand même aidé à gérer la transition de la guerre civile que le pays avait connue à une société beaucoup plus évoluée, à la recherche vraiment d'une dynamique de l'état de droit et autres.
D'après vous, aurait-elle pu mieux faire en matière de lutte contre la corruption, par exemple?
Ah oui, énormément. Et la quasi-totalité des critiques qui étaient formulées à l'encontre de son régime, c'était le fait qu'elle a laissé faire, que la corruption est devenue endémique dans le pays et qu'elle n'a même pas pu mettre en place les règles strictes, les règles qui auraient vraiment permis à l'État de gérer ce genre de situation. Et ça, c'est quand même surprenant de la part de quelqu'un qui était venu pour remettre le pays sur les rails. Ça, c'est vraiment décevant.
Mais contrairement à d'autres dirigeants en Afrique, elle n'aura pas voulu modifier la constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir. Faut-il quand même mettre à cela à son crédit?
Je ne sais pas quoi dire parce que elle l'aurait voulu, aurait-elle pu le faire? C'est une question parce que vous savez que la constitution libérienne est l'une des plus anciennes du continent. C'est une constitution un peu copiée sur le modèle américain qui est difficile à manipuler. Mais dans le même temps, moi, la seule chose importante que je reprocherais à Shirley, c'est le passage de son premier à son second mandat. Il y a eu cette guerre civile dans le pays. Une commission nationale de réconciliation avait été créée. Et une des recommandations de cette commission avait été de demander à Mme Shirley de ne pas se présenter. Sur la base du soutien qu'elle aurait apporté à Charles Taylor, car Charles Taylor était un chef de guerre. Elle n'a pas écouté. Et ça, de mon point de vue, c'était vraiment un mauvais message parce que les leaders politiques doivent quand même respecter les décisions de certaines institutions, surtout pour un pays comme le Libéria qui sortait d'une guerre civile. Bon, maintenant, cela est derrière nous. Gardons d'elle quand même l'image de quelqu'un, de la première femme qui a géré un pays, qui a fait avancer la cause. Donc, nous prions tous pour que cette élection se passe dans d'excellentes conditions, que la transition soit parfaite pour que maintenant, en tout cas en Afrique de l'Ouest, on puisse dire que les pays peuvent sortir de la crise, que donc seule la démocratie peut aider les pays à avancer et que les Libéria pourraient être, dans ce cas, cité un exemple.
Ibrahima Kane de l'ONG panafricaine Open Society Foundations.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Centrafrique, quatre groupes armés qui ont toujours opéré dans le centre-est du pays ont signé hier un accord de cessation d'hostilité à Ipi. Félix Yepassi Zembro a joint à Bangui. Bienvenue Marina Mouluniato du réseau des journalistes des droits de l'homme.
Exactement, les quatre groupes armés, à savoir le FPRC, l'autre aile de FPRC dirigée par Abdoulaye Hissène, le MPC de Al-Katim, UPC de Ali Darassa et RDR, une autre aile des Anti-Baraka. Ils ont signé l'accord, c'était hier dans la matinée, dans la ville de Ipi, où la présence d'Abdoulaye Hissène est signalée depuis plus d'une semaine déjà.
Que dit cet accord?
Ce qui a été dit, ils vont commencer d'abord le démantèlement des barrières qui ont été érigées par les groupes armés sur l'axe Ipi-Bria, y compris les axes qui mènent dans les villages qui entourent la ville de Ipi, et dans le centre du pays en général. Et puis, ils vont discuter d'abord avec ces groupes armés afin de démanteler ces barrières-là pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Et aussi, Abdoulaye Hissène a montré sa bonne volonté d'œuvrer à partir de maintenant pour la paix et le développement.
Et cet accord est-il effectif sur le terrain?
Puisqu'ils ont signé l'accord seulement hier, c'est maintenant qu'ils vont commencer à mettre en application cet accord. La preuve en est que ce matin, j'ai eu Abdoulaye Hissène au téléphone qui m'a fait savoir qu'ils vont commencer l'opération de démantèlement des barrières ce matin. Donc, attendons de voir dans 2 ou 3 jours pour voir si l'accord est vraiment effectif.
Et comment a réagi la population après la signature de cet accord?
Auparavant, lorsqu'Abdoulaye Hissène était arrivé dans la ville, la population était en débandade. Tout le monde était inquiet. Mais après la signature, puisqu'ils ont constaté plus d'une semaine qu'il est là, il y a toujours le calme qui règne dans la ville et tout et tout. La confiance qu'il a pu placer envers la population, c'est le pardon qu'il leur a demandé pour leur montrer que l'heure n'est plus pour le moment au conflit, à la guerre. C'est le temps de faire le pardon, de se réconcilier et autres. Mais depuis plus d'une semaine, je vous rappelle que la ville de Ity est calme malgré la présence d'Abdoulaye Hissène et ses hommes. La population aussi attend de voir la suite de cet accord.
Qu'en sera-t-il pour les autres villes de la région du centre-est de la République centrafricaine?
Pour les 4 groupes qui ont signé cet accord, leur objectif n'est pas de rester seulement dans le centre du pays. Donc, ils veulent d'abord rétablir la paix au centre du pays, précisément à Ity, là c'est Ity et les villages environnants. Et puis, ils vont s'étendre dans la Waka et les autres régions où la présence des hommes en armes est signalée.
Bienvenue Marina Mulunyato du réseau des journalistes des droits de l'homme.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Human Rights Watch incrimine une fois de plus Kigali dans son dernier rapport intitulé « Nous t'obligerons à avouer torture et détention militaire illégale au Rwanda ». Cette fois-ci, cette ONG accuse l'armée du Rwanda d'arrêter illégalement et torturer des détenus. Morgan Guiriec a joint Ida Seur, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch.
Les personnes qui ont été ciblées étaient souvent accusées d'être membres, de voir collaborer avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, un groupe armé majoritairement Hutu rwandais basé dans l'est de la RD Congo. D'autres ont été accusés d'avoir collaboré avec le Congrès national rwandais, le RNC, un groupe d'opposition en exil, et encore d'autres ont été accusés d'avoir collaboré avec Victoire Ingabire, qui est président des Forces démocratiques unifiées, les FDU Inkingi, un parti de l'opposition interdit au Rwanda.
Alors, face à vos accusations, que répond le gouvernement?
Nous avons à plusieurs reprises écrit au gouvernement rwandais demandant de réponse à nos recherches. Malheureusement, on n'a pas reçu de réponse. Cependant, le gouvernement a affirmé publiquement que, selon eux, la détention non officielle n'existe pas au Rwanda.
L'objectif des tortures, c'est notamment de faire signer de fausses déclarations, c'est ça?
Oui, et souvent les détenus nous ont dit qu'à la fin, ils ont signé des fausses déclarations parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la torture ou ils pensaient qu'ils allaient mourir.
Alors, il s'agit d'un véritable système, hein, si on se fie à votre rapport, puisque vous dites que la justice ignore les plaintes des personnes qui disent avoir été détenues illégalement et torturées.
Les détenus étaient d'abord dans ces centres de détention illégales non officiels et c'est là où ils ont été torturés. Et des fois, par la suite, ils ont été transférés à la justice et au centre de détention officiel. Et souvent, quand ils sont arrivés, ils ont reçu des instructions de ne pas parler de ce qui s'est passé avant. Mais malgré ça, des fois, des détenus ont pris le courage de dénoncer le maltraitement, la torture qu'ils ont subi devant des procureurs et des juges quand le procès a commencé. Mais dans tous les cas que nous avons documentés, les juges et les procureurs ont ignoré ces plaintes et il n'y avait aucune enquête.
Et vous dites également, il me semble, hein, dans le rapport, que les autorités rwandaises vont chercher ces personnes jusqu'en RDC ou même au Burundi.
La plupart ont été arrêtées au Rwanda, mais il y avait des cas de personnes qui ont été arrêtées d'abord au Congo ou au Burundi et puis transférées au Rwanda où ils étaient mis dans ces centres de détention militaire.
Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Toujours dans les Grands Lacs, pour parler de la Journée mondiale de la santé mentale, dans le Nord Kivu, l'unique structure sanitaire spécialisée fonctionne difficilement sans même une ambulance. Chaque mois, environ 150 nouveaux cas sont accueillis dans un hôpital géré par l'Église catholique où l'on retrouve le seul médecin psychiatre de toute la province. Charlie Kasereka vous donne les détails.
Ici, en moyenne, 15 à 25 nouveaux cas sont enregistrés chaque semaine et ces patients viennent souvent des territoires lointains, dans des villages où les conflits font encore des victimes, mais depuis plus de 20 ans maintenant. Jacob Kazadi est le directeur de ce centre. Il essaie de nous expliquer. Dans les pavillons où sont hospitalisés les cas les plus difficiles, nous retrouvons Nastasie, la trentaine, mère de 4 enfants, avec beaucoup de difficultés pour s'exprimer. Elle essaie tout de même de nous expliquer comment elle est arrivée ici.
Ce qui a fait que je puisse tomber malade, j'étais au niveau de l'école où je travaillais. Moi, on ne m'avait pas donné assez crédit. Moi, je m'étais demandé pourquoi moi, c'est moi toujours que vous faites des mal comme ça. Et pourtant, nous sommes tous les enseignants. J'ai commencé à penser beaucoup et c'est ce qui a fait à ce que j'arrive ici à l'hôpital de la santé mentale.
La bonne santé en milieu de travail, c'est le thème choisi cette année par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les nombreuses croyances qui existent dans la région font que la société regarde les malades mentaux avec mépris. Par ignorance, certains malades sont dirigés vers les chambres de prière, au merci des pasteurs ou chez les tradis praticiens, ce qui ne facilite pas les spécialistes qui reçoivent les patients trop tard au stade avancé de la maladie. Docteur Polepoli est le seul spécialiste psychiatre de la région très sollicité. Dans les centres, certains sont même abandonnés par les membres de leur famille quand la charge devient trop lourde. Le directeur Kazadi nous en parle ici. Les spécialistes dans les domaines pensent que les conflits récurrents dans la région, chômage, drogue et alcool font partie des grandes causes de cette maladie et la santé mentale est considérée aujourd'hui comme les problèmes de la santé publique. Charlie Kasereka de Pougoma pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Josèle Morissin a assuré la mise en onde. Thomas Blondet à la console. Présentation Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com 24h sur 24. À très bientôt.